parlons du dérèglement climatique.
Du global au local, pourquoi est-il urgent de s'adapter et comment agir ici et maintenant? Ce sont les thèmes de plusieurs conférences qu'organise l'association Durance-Luberon-Verdon 2030 et j'ai le plaisir d'accueillir l'un des fondateurs de cette association, Sébastien Lorca. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête de cette association, alors pour dresser le portrait de cette association, Durance-Luberon-Verdon, ça nous fait penser à une agglomération bien connue sur le territoire, mais en même temps vous mettez 2030, donc ça n'est pas cette agglomération. Pourquoi ce choix 2030 ?
Alors, je me permets juste de commencer par dire que je suis pas à la tête de l'association, parce qu'on est tous les trois, voilà, on est, c'est tout à fait...
Il y a trois fondateurs.
Il y a trois fondateurs, voilà, donc on est tous les trois à la tête, finalement, de cette association.
Et vous êtes une tiers de tête.
Exactement, je suis un tiers de tête uniquement. Alors, pourquoi 2030? Simplement parce que on voulait un petit peu signifier dans notre nom, d'une part, l'ancrage local, donc d'où le Durance-Luberon-Verdon, au risque de confondre un peu avec la DLVA et qu'on nous prenne un petit peu pour quelque chose d'institutionnel, ce qu'on n'est pas, puisqu'on est complètement indépendant. Et puis 2030 pour signifier l'urgence du réchauffement et puis de ce qu'on appelle maintenant la sixième extinction de masse, donc cet effondrement de la biodiversité qui se produit également sur nos territoires. Donc voilà, donc DLV pour l'ancrage local et 2030 pour l'urgence et le fait que ce soit dans un avenir relativement proche qu'il faille
Ça n'a rien à voir avec une échéance particulière, politique, économique, touristique, j'en sais rien.
Absolument pas.
Bon,
absolument
donc pas. DLV 2030, et vous avez eu cette idée que je trouve très intéressante de créer plusieurs conférences ici à Manosque, à la salle Osco-Manosco, sous ce thème dérèglement climatique du global au local. Donc effectivement, le dérèglement climatique, on sait très bien qu'on est en plein dedans. On voit la montée des eaux, on voit les chaleurs intenses, les sécheresses qui se multiplient, les ouragans qui sont de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. C'est ça, votre moteur ?
Exactement. Le moteur, vraiment, à la base, l'idée, c'était vraiment de se dire que tout ça était déjà en marche, en fait. Hein. C'est même pas quelque chose qui nous attend ou qui est pour nos enfants ou nos petits-enfants. C'est quelque chose qui est pour nous, qui est d'ores et déjà à l'œuvre. Il y avait cette idée qu'il fallait peut-être passer d'un discours qui était très axé sur l'atténuation, donc c'est-à-dire essayer d'empêcher le réchauffement. Tout à l'heure, vous parliez des petits gestes, etc., dont il a été question à Digne récemment. Donc passer de ce discours qui cherche finalement à empêcher le réchauffement sur le long terme, à un autre discours qui vise à dire dans une large mesure, pour les 20-30 prochaines années, tout est déjà dans les tuyaux, qu'on va déjà, d'ores et déjà, on sait qu'on va devoir faire face à un réchauffement copieux, hein, qui est déjà de plus de 1 degré dans notre région, et que du coup, il faut pas seulement penser atténuation, même si évidemment, il faut penser atténuation sur le long terme, mais qu'il faut aussi penser adaptation sur le plus court terme, pour préparer nos territoires très très localement autant que possible. Voilà, donc c'était ça le point de départ de l'association.
Ce qui est intéressant aussi dans votre démarche, c'est que effectivement, elle s'attache au local. Vous l'avez dit, 1 degré de plus sur le terrain, autrement dit ici dans la région, on va dire des Alpes de Haute-Provence. Vous êtes tous les trois, enfin les trois fondateurs de cette association. C'est votre métier, l'environnement ?
Alors, c'est pas le cas pour moi, c'est plus le cas pour mes deux acolytes, donc qui sont pas là aujourd'hui, Marilyn et Catherine, qui elles ont toutes les deux une ancienne vie professionnelle plutôt liée à ça. Marilyn notamment hein, qui a un master de sciences britanniques là en études d'impact environnemental, qui a aussi un doctorat dans ce domaine-là un petit peu, donc et qui a été déjà impliquée à plusieurs échelons, notamment dans la vie associative. Par rapport à tout ce qui est question environnementale. Catherine Delahaye, qui est aussi donc une de mes acolytes de DLV 2030, est très intéressée par la permaculture. Alors ça reste au niveau associatif. Elle était psychomotricienne à la base. Donc je dirais que non, on n'est pas des professionnels, mais c'est quelque chose qui pour nous trois est devenu de plus en plus important au fil du temps. Et moi, en ce qui me concerne, c'est plutôt par le biais de l'enseignement que je me suis intéressé à ces questions-là.
Alors Marilyn, c'est Marilyn Simons, c'est ça ?
C'est Marilyn Hamilton.
Pardon. Hamilton, j'ai confondu. Donc Marilyn Hamilton qui est donc l'un des trois tiers.
Exactement.
Aussi de cette association. Vous organisez donc ces conférences. Quel est le but de ces conférences ? Qui vous visez comme public ?
tous et toutes. L'idée, c'est vraiment de ne pas s'adresser justement à un public restreint de sachants, quoi, mais vraiment de s'adresser à tout le monde. Donc, on invite, je profite de votre antenne pour vraiment inviter chaleureusement tout le monde à ces conférences. Elles se présenteront toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'il y aura deux parties. Il y aura une première partie où on a invité un scientifique, un universitaire, un chercheur, qui viendra nous parler du thème du jour. Et puis, ça durera pas plus que 30-40 minutes. Et après, on enchaîne tout de suite sur une table ronde avec des acteurs locaux. Et vraiment un débat, une table ronde à laquelle le public est invité complètement et où on essaiera vraiment de parler de ces thèmes-là au niveau très, très local. Par exemple, dans notre première conférence sur le climat, nous avons décidé d'inviter, alors ça sera un peu particulier parce qu'on aura deux invités, alors que normalement on n'aura qu'un seul invité, mais pour cette première soirée sur le climat, nous aurons Joël Guillot. J'en profite pour dire que ça aura lieu donc bientôt le 7 novembre.
Oui, on n'a pas donné la date, mais j'allais le rappeler, ne vous inquiétez pas.
Le jeudi 7 novembre à 20h à la salle Osco-Menosco, donc pour la première soirée, et puis peu de temps après, 15 jours après, on aura une deuxième soirée le jeudi 21 novembre, 20h toujours, salle Osco-Menosco, sur la forêt. Sur les forêts, l'impact du réchauffement sur les forêts dans la région. Et donc la première soirée, le 7 novembre, ça sera sur le réchauffement en tant que tel, le dérèglement climatique. On ferait mieux de parler, je pense, de dérèglement que de réchauffement. Et donc nous aurons Joël Guillot, qui est climatologue, qui est directeur de recherche au CNRS, pardon, qui est également directeur du GREC Sud. Le GREC, c'est une sorte de GIEC local, en fait. C'est une association qui existe depuis plusieurs années, qui regroupe un grand nombre d'experts, de scientifiques qui travaillent sur la question, notamment des chercheurs qui travaillent à l'IMBE, qui est l'Institut Méditerranéen pour la Biodiversité et l'Écologie, qui dépend d'Aix-Marseille Université. Et donc Joël Guillot, qui est directeur du GREC, qui a participé au GIEC d'ailleurs, viendra nous parler du réchauffement, en passant vraiment du global au local et en nous parlant de l'impact du réchauffement sur notre région.
Il y a également un parlementaire, le sénateur Jean-Yves Roux, qu'on connaît bien, parlementaire, donc sénateur des Alpes de Haute-Provence. Quel lien avec le climat, Jean-Yves Roux ?
Alors Jean-Yves Roux, il a justement sorti un rapport sénatorial peu de temps avant l'été, qui était exactement sur cette question de l'adaptation dont je parlais tout à l'heure. Donc pas de l'atténuation, mais vraiment de l'adaptation. Et son rapport a fait un peu de bruit au moment de sa sortie. Il a été commenté au moment de la sortie par le Sénat évidemment, mais aussi par les politiques. Et donc il pointait du doigt vraiment la façon dont la France est finalement très en retard en termes d'adaptation et l'urgence à laquelle on fait face pour devoir vraiment s'adapter à tous les niveaux, donc municipal, local, régional, évidemment aussi au niveau national et européen. Et donc le rapport de Jean-Yves Roux nous paraissait vraiment tomber à point nommé, et donc nous l'avons invité, et il a tout de suite gentiment invité de venir. Donc voilà la raison pour laquelle nous aurons donc Jean-Yves Roux en deuxième partie, qui nous parlera très concrètement d'une série de propositions qu'il souhaiterait voir mettre en place au niveau régional et au-delà au niveau national.
Et le public pourra l'interpeller en tant que parlementaire, justement, pour savoir quelle est sa marge de manœuvre et puis, en même temps, comment faire avancer les choses au niveau des institutions et notamment de la Chambre haute, par exemple, au Sénat. On va citer les autres conférences, si vous voulez bien, oui. Sans donner les dates. La première est consacrée au climat, vous l'avez compris. La seconde, c'est la forêt, vous en avez parlé. Mais ensuite, vous avez aussi la biodiversité, l'eau, l'agriculture et l'énergie. Ça semble un petit peu fourre-tout, mais en fait, c'est la vie de la planète que vous allez évoquer à Manosque.
Eh ben oui, modestement. il y aura encore d'autres thèmes qui nous tiennent à cœur, pardon, et qu'on aimerait peut-être traiter dans le futur. On aurait aimé parler aussi des transports, par exemple, qui sont une question vraiment importante au niveau du territoire. Mais bon, on voulait commencer par ces premiers thèmes-là qui nous semblaient vraiment les plus importants. On n'a pas encore de date fixée pour la dernière soirée sur l'énergie, mais comme vous le disiez, effectivement, je peux vous parler d'ores et déjà des quatre autres dates. Première date, le 7 novembre, pour le climat, ensuite la forêt le 21 novembre. Pour l'eau, nous aurons Antoine Nico, qui est vraiment un spécialiste très intéressant, qui fait lui aussi partie du GREC Sud, qui viendra nous parler de la problématique de l'eau le 12 décembre. Nous aurons Albert Mondeau pour l'agriculture le 16 janvier, et puis Benoît Gesselin qui viendra nous parler d'abeilles, de pollinisateurs, qui est un grand spécialiste de la question, et qui sera là le 13 février. Et donc au-delà des pollinisateurs, on parlera biodiversité.
Ce sont des conférences qui vont intéresser un public très très large, très très varié, que ce soit nos amis apiculteurs, que ce soit les forestiers, que ce soit les simples citoyens.
Exactement.
Qui viendront pour savoir comment on fait pour faire en sorte que les abeilles ou que les oiseaux ne disparaissent pas, par exemple. En ce moment, c'est un gros gros problème, un gros souci, et en plus dans une région rurale comme la nôtre. Alors vous imaginez, dans les grandes villes, s'il n'y a que les pigeons qui vont subsister, ça va être dramatique. Il nous fera quand même des petits piafs. Ce serait bien qu'on ait encore des oiseaux qui sont là, et pas uniquement aussi des oiseaux migrateurs aussi, mais des oiseaux qui restent là à l'année. Qu'est-ce qui fait que vous, Sébastien Lorca, vous êtes enseignant, vous l'avez dit tout à l'heure, vous militez pour cette question. Quelles sont vos motivations?
Je crois que, en fait, c'est une prise de conscience, hein, que j'ai eue il y a maintenant 4 ans de ça, enfin pas tout 3 ans et demi, quoi, où j'ai eu la chance de passer un an au Canada, et donc du coup de prendre une année sabbatique. Et c'était pendant une période où je voulais préparer un cours sur les réfugiés climatiques, sur les conséquences finalement géopolitiques du dérèglement climatique. Et en préparant ce nouveau cours là sur cette question des réfugiés, je me suis intéressé d'abord au climat, évidemment, au dérèglement climatique. Et en fait, je croyais être à peu près au courant, et je pensais savoir que c'était grave. Et en fait, j'ai découvert que c'était beaucoup plus grave que ce que j'avais compris. Et donc j'ai passé vraiment 2-3 mois je crois, ça a vraiment été une prise de conscience de la gravité du fait que c'était déjà clairement en marche, et que ça allait bien au-delà de ce qu'on nous a après vendu au moment du traité de Paris, si vous voulez, de rester en dessous du 1,5 ou 2 degrés. En vérité, le 1,5 ou 2 degrés, c'est une évidence à l'heure actuelle que c'est déjà dans les tuyaux. Et que quand on parle en fait d'un réchauffement de 3 à 4 degrés pour la fin du siècle, c'est déjà être optimiste, malheureusement. C'est déjà être optimiste, et ça j'ai vraiment compris il y a 3-4 ans. Et du coup, ça m'a pas lâché, et c'est vrai que depuis, j'ai continué à me renseigner, à beaucoup lire sur la question de la science, même si à la base je suis pas scientifique, et puis évidemment plutôt des sciences humaines, qui sont plutôt mon truc, donc en termes de relations internationales ou de conséquences géopolitiques de ce dérèglement.
Avec les conséquences que l'on connaît, hein, que ce soit évidemment les réfugiés climatiques, vous en parlez, que ce soit le réchauffement aussi, tout simplement, les cultures qui vont être obligées de s'adapter, le manque d'eau aussi, et puis évidemment la montée des océans qui risquent de faire disparaître pas mal d'îles et pas mal de villes où il y a des millions d'habitants. Je pense notamment à Lagos, où il y a 11 millions d'habitants. Et Jean Jouzel, que j'ai interviewé cet été, disait que c'était vraiment une ville très, très menacée. Et donc, on imagine ces 12 millions d'habitants. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont peut-être venir jusqu'en Europe, et il va falloir s'adapter, il va falloir trouver des solutions. Vous organisez donc ces rencontres, ce sont des rencontres, je suppose, qui sont entièrement gratuites.
Bien sûr.
Vous avez des partenaires qui vous aident pour organiser tout cela?
Alors, on a la Maïf qui nous a gentiment, effectivement, un petit peu subventionné là pour pouvoir ne serait-ce que payer notre communication. Mais c'est tout. Pour l'instant, voilà, on n'a pas besoin d'énormément d'argent. Hein, il s'agissait simplement de faire quelques tracts. Donc voilà, la Maïf nous a gentiment subventionné.
Et vous donnez rendez-vous au public, donc les rendez-vous climat-biodiversité. Le premier de ces rendez-vous, c'est le 7 novembre à 20h à la salle Osco-Manosco à Manosque. C'est une organisation de l'association Durance-Luberon-Verdon 2030. Dérèglement climatique du global au local. Pourquoi est-il urgent de s'adapter? Vous l'avez compris en écoutant cette interview. Et comment agir ici et maintenant? Vous le saurez en allant à la conférence de DLV 2030. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été notre invité.
Merci
Bonne
à vous,
continuation.
François.
N'hésitez pas à venir nous solliciter pour les autres conférences. Ce sont des dossiers qui sont passionnants et ô combien cruciaux.
Je reviendrai avec plaisir vous en parler. Merci encore, François.
À bientôt.